Bien le bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Très content de vous retrouver pour amorcer votre week-end. Vous accompagner dans ce début de week-end-là, 18h30. Bienvenue aux amateurs de sport. Pas question de s'asseoir dessus. Encore une fois, une grosse émission à vous proposer ce soir. Et parmi nos invités dans cette série d'entretiens sur les souvenirs de la Coupe de 93, et bien ne pas manquer en deuxième partie d'émission, tout à l'heure, aux environs 19h35, nous accueillons Charles Tifot, qui était l'adjoint de Jacques Demers dans cette édition 1993, dernière Coupe Stanley remportée au Canada par les Canadiens. Un peu de tout ce soir, donc. Danny Dubé sera là, Philippe Quentin, et d'entrée de jeu, nous accueillons Mario Tremblay. Monsieur Tremblay, bonsoir.
Bonsoir Mario, ça va bien?
Ça va bien Mario, c'est drôle, mais sans que tu le saches, j'ai ri en pensant à toi. Je sais pas, tu sais, des fois on a des scénarios dans la tête. Là, ouais. Puis hier, ça a commencé hier, la game Toronto-Bruins. Là, je voyais Brad Marchand. Les gens qui n'ont pas vu, puis Brad Marchand avec Komarov, puis à un moment donné, dans des situations d'arrêt de jeu, Brad Marchand, qui là peut-être cherche de nouvelles façons, de nouvelles avenues pour intimider, se place le nez dans le cou direct de Komarov, comme si ça valait un gars qui embrassait Komarov. Et là, c'est drôle. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi. J'ai dit, je sais pas ce que notre bleuet national ferait dans une situation semblable. Mettons que tu avais vu ça des années 70 contre Bobby Schmutz ou Terry O'Reilly ou je sais pas qui, hein.
Ben écoute, ben moi j'ai vu le geste, puis ils m'ont dit une affaire. Si ça avait été moi qui m'avait fait ça à moi, c'est sûr qu'il y aurait eu une mornif, là, un coup de poing sur la marboulette. Je peux te le garantir. Mais de ceci étant dit, moi j'ai l'impression également aussi que Marchand a peut-être choisi sa cible, là, parce que Komarov, c'est pas lui qui est plus dur, c'est pas lui qui va lâcher les gants. Mais moi j'ai trouvé que ça va. En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas nécessairement apprécié le geste de Brad Marchand, là. Comment? On joue au hockey. Ce sont les séries de la Coupe Stanley. Moi, j'appelle ça de l'enfantillage, sur mon impression, là.
En tout cas, il continue d'essayer de déranger parce qu'il y a.
Ah ouais, mais Marchand, c'est Marchand, on le connaît tous, là.
Exactement.
On sait comment est-ce qu'il est, puis il changera pas.
C'est tellement un bon joueur de hockey. Il t'appelles-tu quelqu'un, un bon joueur de hockey qui peut être détestable, tu sais, peut-être de ton époque où
il est. Ben, il me rappelle un peu, moi, Ken Linsman. Quand Ken Linsman a joué avec les Bruins de Boston, puis par la suite avec les Flyers ou vice-versa, là. Ken Linsman, c'est un très bon joueur de hockey, mais c'était une petite peste également. Puis moi, Brad Marchand, je le compare à Ken Linsman, c'est deux pareils. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça joue sur tes nerfs, puis ils font tout pour déranger l'adversaire. Puis bien souvent, bon, mais comme tu as dit tantôt, moi je pense que Brad Marchand est tellement un bon joueur de hockey qu'il est pas obligé de faire ce genre de niaiserie là sur une patinoire là. Regarde, les Blues ont gagné le match contre Toronto, joue en homme, là, agit en homme là, ça c'est, moi je trouve que c'est du stuff de junior.
J'en reviens à la mornif, tu sais, veux pas, je pense que à un moment
mornif,
donné,
peut-être un coup de coude sur la gueule avec là.
Mais tu sais Mario, tu sais, on parle de discipline. Jusqu'à quel point des fois faut que tu tendes l'autre joue, puis que d'autres fois, ben justement, tu non, garde, c'est assez, on va jouer le 2 minutes, on va se défendre pendant 2 minutes, mais tu viendras pas ridiculiser le hockey, puis tu viendras pas rire de moi ici, ça.
Moi, je pense, Mario, là-dedans, honnêtement, là, il y a toujours un moyen de se reprendre. T'sais, évidemment, c'est je niaise là, quand je dis ça, là,
ben oui, ben oui.
Sa marboulette, là, mais c'est sûr qu'il faut que tu sois discipliné, c'est séries éliminatoires. Puis on sait pourquoi il fait ça, Brad Marchand. Il le fait pas, comme j'ai dit tantôt, pour vouloir déranger l'adversaire.
Vraiment.
Mais un autre tantôt dans le match, ça dure 60 minutes, là. Puis un autre tantôt, je vais avoir ma chance de le pincer. Je vais avoir la chance de peut-être moi aussi de le ridiculiser, Brad Marchand. Mais c'est ça, des fois. Faut que tu sois patient, faut que tu prennes ton mal en patience. Puis mais quitte à lui remettre, peut-être pas nécessairement dans ce match-là, mais dans le match numéro 2. Alors, on verra bien comment Komarov va réagir, là, mais regarde, c'est ça. Marchand, c'est Marchand.
Le début des séries nous rappelle à quel point, Mario, et c'était vrai à ton époque de joueur, puis les nombreuses années que tu as coaché, à quel point l'intensité grimpe de je sais pas combien de coches là, en première ronde éliminatoire. Et veux pas, tous les gens qui continuent de suivre le hockey des séries, ben pensent aux Canadiens, genre d'équipe qu'on va avoir l'an prochain. Vois-tu quand même, parce qu'il y en a dans l'équipe maintenant, lesquels... Qui sont les joueurs qui est encore à Montréal, tu sais, avec qui tu penses que le Canadien peut aller à la guerre dans ce type d'hockey-là qui double d'intensité, là?
Ben, c'est une bonne question que tu me poses là, Mario. Puis moi, là, j'ai l'impression, tu sais, parce qu'on dit que le club canadien, c'est une petite équipe. Puis t'as raison, je regarde là, les matchs là, dans la Ligue nationale, dans les séries éliminatoires. Juste la série Winnipeg-Minnesota, là, comment ces équipes-là sont gros, puis ça patine, puis ça frappe. Puis ça aussi, quand on parle de changement... Je serais pas surpris non plus que Marc Bergevin essaie de grossir l'équipe un petit peu. Tu sais, c'est bien
ça fait des années qu'il essaye, mais...
Ben oui, mais à un moment donné, essaye plus fort. Qu'est-ce que je te dis? Essaye plus fort. Parce qu'on le voit, là, tu sais, Canadiens, cette année, une mauvaise saison, on est tous d'accord. Mais le Canadien, avant, on disait, Colin, le Canadien, c'est une équipe rapide. Ils sont intimidants dans l'échec avant. Mais tu sais, il y a rien de mal à ça là, pouvoir, si je comprends, je l'aime bien Paul Byron, j'aime bien Gallagher, j'aime bien Charles Hudon, mais tu sais, on parle quand même puis Lekkonen, tu sais, on parle de quatre joueurs, que c'est pas des monstres là, c'est pas des mastodontes. Fait qu'à un moment donné, peut-être sacrifier peut-être un petit peu de vitesse, mais se grossir un peu en attaque. Moi, je pense que ça serait peut-être une chose nécessaire pour le Canadien là.
Tu penses-tu que tu peux avoir, puis Dieu sait que s'il y a deux gars qui ont du caractère chez les attaquants des Canadiens, c'est Byron et Gallagher. Ouais. Mais tu peux-tu avoir ces deux gars-là dans un top 6, dans le même top 6?
Ben, c'est parce
compte
que
tenu du gabarit, là, Mario, pas du caractère,
c'est sûr,
là.
T'as raison. Si t'es dans le top 6, je pense qu'on a un problème, honnêtement. Moi, j'ai pas de trouble avec Gallagher sur le top 6, là, mais okay. À un moment donné, j'aimerais mieux. Tu sais, honnêtement, dans une vraiment une bonne équipe, là, peut-être que Gallagher et Byron seraient sur un troisième trio avec Dano. Tu sais, on parle parler, là. Mm-hmm. Dans une bonne équipe, je parle, là. Je parle d'une équipe qui pourrait peut-être aspirer ou avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Mais c'est ça, faut que le club s'améliore. Puis comme on a parlé ensemble tous les deux la semaine dernière, là on parle de ces gars-là, mais faut regarder plus haut un peu. Ton noyau a-t-il le caractère nécessaire pour t'amener loin dans les séries éliminatoires? Poser la question, je pense, et d'y répondre.
Et c'est pour ça que le noyau ne sera plus le même au début de la saison prochaine.
C'est sûr, le Canadien, le noyau ne peut pas être comme ça l'an prochain, parce que sinon on n'aura pas amélioré le club. Ceux qui avaient le travail à faire cette année, ils l'ont fait, on vient de les nommer, et ceux qui ne l'ont pas fait, on parle du noyau. Alors c'est là, je pense, que la pierre angulaire pour Marc Bergevin va être là, d'améliorer son noyau pour amener l'équipe à des plus hauts standards qu'on n'a pas vu cette année, puis on sait tous là qu'avec un autre bon défenseur, mais c'est ça le travail de Marc, puis je pense qu'il y a beaucoup de bons éléments pour être capable de faire une transaction avec les choix repêchage, Pacioretty qui je pense a une bonne valeur sur le marché des transactions. Alors, on verra bien comment Marc Bergevin va se débrouiller avec tout ça.
Ma prochaine question, je t'en ai pas parlé avant, Mario, fait que peut-être qu'on y reviendra, ouais. Mais je te lance une perche. Je sais pas si tu as été témoin au Minnesota. C'est vrai, dans tes années où tu jouais, il y avait moins de magasinage d'agents libres. L'autonomie venait très tard en carrière, ouais. Mais mm-hmm. Même si tu sais que t'as pas beaucoup de chance d'attirer un joueur comme John Tavares dans ton marché, exemple, si t'es en ouais. situation de le courtiser, là, comment tu t'y prendrais, ou qu'est-ce que tu as déjà vu que d'autres équipes ont fait pour attirer un joueur comme ça dans un marché où peut-être qu'il n'a pas vraiment envie de venir? Tu penses-tu que ça vaut la peine d'investir des efforts là-dedans? Puis, as-tu une petite idée de ce que tu serais tenté d'essayer?
Ben, c'est sûr que Marc va essayer de convaincre. Puis là, je pense que l'avantage aussi là-dedans, c'est que Marc Bergevin connaît très bien Pat Brisson, tu sais, c'est des oui. amis de longue date, et ça, je pense que ça pourrait peut-être aider, évidemment, mais il va falloir aussi que, j'espère que avant qu'on réussisse à parler à Tavares, est-ce que le Canadien sera amélioré à partir de ce moment-là? Tu sais, c'est bien beau vouloir amener Tavares, mais il faut lui promettre à Tavares que le club va s'améliorer, et voici les changements qu'on va faire, voici les joueurs qu'on veut amener, on veut réavoir une équipe gagnante. Est-ce que ça va être assez pour convaincre Tavares? Je le sais pas, mais c'est un peu de cette façon-là que Marc Bergevin doit s'y prendre.
Oui, donc par l'équipe d'hockey, ça donne à rien de se faire un tour d'hélicoptère, ben là, de l'amener...
C'est sûr,
vraiment...
Parce que lui, tu sais, on regarde avec les Islanders, ils ont arrêté des séries éliminatoires. Alors, moi, si je suis dans les patins de Tavares, évidemment que je veux jouer pour une équipe gagnante, je veux jouer pour une équipe qui peut aspirer à gagner la Coupe Stanley. C'est ça le but d'un joueur de hockey. On veut gagner des Coupes Stanley. On veut pas rater les séries ou finir dans le milieu du peloton puis faire les séries par la porte d'en arrière. On va aller de l'avant, puis d'autant plus que, tu sais, l'argent, il va en avoir partout de l'argent pour lui, Tavares, là. Alors, ce sera à lui de choisir la place où il va aller. Mais, encore une fois, je pense que le pourcentage, même si Marc va essayer de l'amener à Montréal, pour moi, les chances vont être très minces.
On sent que, bon, il y a 31 équipes dans la Ligue nationale. Bon, dans leur équipe, ça doit être vrai dans d'autres sports, mais tu sais, chacun essaie ouais. ou a son approche pour se tirer le maximum dans son groupe de joueurs. Il y a des entraîneurs qui sont durs. Ouais. Il y en a un qui annonce sa retraite aujourd'hui, Ken Hitchcock. Il y en a qui sont identifiés comme des players coach, des gars qui donnent des nananes à leurs joueurs. Ouais. Et il y en a qui disent, on joue comme on pratique, faut qu'on pratique dur. À Ottawa, Guy Boucher n'est toujours pas reconfirmé comme entraîneur qui reviendrait la saison prochaine. Puis dans sa réflexion à voix haute sur la place publique, Pierre Dorion dit, s'il revient, en tout cas, il va arrêter de dire que le repos, c'est de l'or ou que c'est une arme, parce que I'll go crazy, je vais virer fou si j'entends ça encore. Il veut que son équipe pratique mm-hmm. davantage. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis qu'est-ce que tu penses de la façon dont il s'est exprimé publiquement par rapport à son entraîneur?
Ben, moi, je connais bien Pierre Dorion. J'ai travaillé avec quand Pierre était dépisteur-chef pour le Canadien. Puis je n'apprécie pas tellement la sortie de Pierre Dorion, pour être bien franc avec toi. Parce que si moi, j'étais l'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa, et j'entendrais mon directeur gérant me dire ça à la télévision de moi, c'est sûr que c'est une chose qui ne me plairait pas, mais pas du tout. Parce que je dirais à Pierre Dorion, j'aurais pris le téléphone, j'aurais dit, écoute bien, là, si t'as des affaires à me dire, là, peux-tu me le dire dans le bureau, les portes fermées? Pas d'affaire à aller sur la place publique pour me planter pour des choses comme ça. Puis Pierre, je trouvais qu'il avait été joué un peu au comique, là. Puis je pense pas non plus qu'il peut jouer au comique avec la saison que les Sens d'Ottawa ont connue cette saison. Je pense qu'il aurait pu se garder une petite gêne, honnêtement.
Ce qui m'a surpris, Mario, bon, premièrement, qu'il le fasse de façon aussi candide sur la place publique, mais ouais. D'autre part, c'est que moi, je pensais que, dans le cas de Guy Boucher, c'est que ces joueurs rapidement là devenaient un petit peu là du message qu'ils véhiculaient, parce qu'on dit que c'est après tout de suite après sa première année qu'il y a de la misère avec ses clubs. On le levait à Tampa, on le levait à Ottawa, mais oui. Un gars qui donne des breaks puis des congés à ses joueurs, il est pas si exigeant que ça. Donc tu sais comment tu vois ça? Ouais. Ça, il y a la réputation d'être un entraîneur exigeant dans son système, mais il donnait des nananes aussi.
Mais tu sais des fois, Mario, un entraîneur, tu sais, parce que comme tu mentionnes, Guy Boucher est un entraîneur qui était très exigeant apparemment. Tu sais, ses systèmes de jeu puis des pratiques étaient difficiles. Puis des fois, un entraîneur veut apporter certains changements aussi de la façon dont il va se comporter avec son équipe. Puis des fois, bon, ben peut-être qu'il est allé trop loin de l'autre côté, tu sais, ça prend juste un milieu là-dedans. Puis moi, j'ai toujours cru que c'est vrai ce que tu as dit tantôt aussi, tu vas jouer comme tu pratiques. Tu sais, on regarde maintenant avec les voyagements puis les congés que les équipes doivent donner aux joueurs, tu sais, on pratique 45 minutes après c'est terminé, mais qu'une équipe pratique 45 minutes, ça me dérange pas. Mais je veux voir de l'intensité, par exemple. Je veux voir des plans de match qui sont exécutés. Parce que pour un entraîneur, là, Mario, là, la pire affaire qui arrive, tu sais quoi? Quand ton club gagne pas, là, puis ça, c'est ta job à toi comme entraîneur de replacer le club sur les rails. Puis je me souviens avec Jacques Lamaire, il disait, Mario, on fait pas notre job. Il dit, pourquoi? Ben, il dit, le club joue pas de la façon dont on veut qu'ils évoluent. Puis ça, c'est notre travail à nous autres de le faire. Tu sais, oui, tu peux perdre un match 3-2, puis le club a bien joué, c'est pas grave. Mais quand, là, puis la crainte aussi qu'on a tous là-dedans, c'est que on a peur de partir sur un déraillement, là, d'en perdre 7-8 en ligne, puis on ne peut pas se permettre de perdre 7-8 matchs en ligne. Alors, c'est là un peu que le travail d'un entraîneur devient un peu plus stressant, des entraîneurs, devrais-je dire, parce que c'est important pour nous de replacer le club, puis de faire comprendre aux joueurs, regardez, là, la façon dont on a joué dans le passé, ça a été payant, on a gagné avec ça. Pourquoi on changerait notre système de jeu? Oui, on peut l'améliorer. Mais fondamentalement, c'est de la façon dont le club se doit de jouer. Un peu comme le Canadien, on n'a pas vu cette saison. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais en mettre l'autre, justement, de ne pas apporter les ajustements nécessaires pour que son club retrouve le chemin de la victoire. Que le Canadien a eu beaucoup de blessés, je le comprends. Mais par contre, faut faire attention. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, je viens d'expliquer, les entraîneurs, on a un travail à faire, puis on a un système de jeu à inculquer dans cette équipe-là. Puis ça, je pense que c'est une qualité primordiale.
T'entends le discours un peu partout dans la Ligue. À Montréal, ça fait partie des conversations. On sait que ce que Max Pacioretty en pense, c'est la philosophie, comment tu crées de l'attaque. L'importance de créer plus d'attaques dans la Ligue en 2018. Mais en même temps, que quelqu'un vienne me dire, quand il regarde un match des séries, que ces équipes-là essaient pas de bien jouer défensivement. T'sais, tout le monde essaie de fermer le jeu. Mais ça te le prend le talent. Mais tu sais, je vais te prendre, par exemple, t'sais, Vegas Kings. On dirait que personne n'y a cru en saison régulière. Puis à un moment donné, tout le monde s'est fait à l'idée, ben ils sont bons, les Vegas, finalement. Là. Mais quand est venu le temps de faire les prédictions des séries, les gens, il y en a plusieurs, très majoritairement, ont prédit une victoire aux Kings. Comme si, donc, on les prenait encore pas au sérieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, dans Kings-Vegas?
Dont moi, j'ai favorisé les Kings en 6. J'ai pris les Kings en 6 parce que les Kings ont connu une bonne fin de saison. Le retour de Jeff Carter, Jonathan Quick qui était en feu. Par contre, de l'autre côté, effectivement, Marc-André Fleury a connu une très, très bonne saison. Mais, tu sais, quand j'ai décidé de prendre les Kings, je me fie à l'expérience des Kings. Ils ont gagné 2 Coupes Stanley. La plupart des joueurs qui ont gagné des Coupes sont encore là. C'est une grosse équipe. C'est une équipe bâtie pour les séries éliminatoires. Puis là, je me disais, bon, ben avec l'expérience de Las Vegas, je pense que je me dois de favoriser les Kings. Puis c'est la raison pour laquelle je les ai pris. Écoute, la saison est pas encore les séries ne sont pas encore terminées. Ça peut être une longue série. Je pense que ça va être une longue série. Et c'est la raison pour laquelle je favorisais les Kings.
Et ma question pour enchaîner là-dessus maintenant, puis là, tu vas voir, je vais rejoindre là, pour être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, l'équation talent-travail, c'est sûr que ça te prend du talent pour gagner, mais du talent sans travail, on sait que tu veilles pas tard. Quand tu analyses Vegas, avec des rejets des 30 autres équipes de la Ligue, leur succès, C'est-tu parce qu'ils ont bien du talent? C'est-tu parce qu'ils travaillent plus fort que les autres? C'est-tu parce qu'ils respectent un système que dans des villes, il y a des joueurs qui ont de la misère à respecter? C'est quoi la recette magique de Gérard Gallant puis des Golden Knights de Vegas, Mario?
Oui, mais tu sais, Mario, là, on regarde lorsque Vegas ont repêché, ont formé leur équipe. Tu sais, il y avait quand même des bons joueurs. On pense à Carlson là, qui a été libéré, qui est rendu à 40 buts. Évidemment, le directeur gérant est à l'air fou un peu là-dedans, là, mais c'est un peu le risque que ces clubs-là ont à prendre. Puis qu'on le veuille ou non, ils forment une sacrée bonne équipe. Là. Les joueurs, c'est pas comme nous autres, quand on est arrivé avec Columbus puis Minnesota, qu'on repêchait les gars de quatrième trio, puis les 14-15e attaquants des autres équipes, puis les 8e, 9e, 10e défenseurs. On n'avait pas de club, mais là, je pense que Gary Bettman de la Ligue nationale, ils ont fait du bon travail. Écoute, les clubs payent 500 millions pour avoir un club d'expansion. On peut-tu au moins avoir le droit d'avoir une pas pire équipe sa patinoire pour permettre à nos partisans de se régaler aussi match après match. Alors, c'est un peu ça les changements qu'ils ont effectués. Puis aussi, qu'on le veuille ou non, quand ces joueurs-là n'ont pas été protégés par leur équipe respective, c'est une source de motivation là aussi là-dedans. Là. Tu sais, ils disent, écoute, c'est des rejets, puis les gars arrivent dans une équipe, puis là, whoop, l'ambiance à Vegas est tellement bonne, c'est une bonne organisation. Gérard Gallant est un bon entraîneur. Les gars ont du plaisir à jouer au hockey. Alors, j'ai vu Marc-André Fleury dans une entrevue l'autre jour avec Luc Gélinas après le premier match. Tabarouette, c'était du bonbon. Il était de bonne humeur. Puis il parle aux médias. Là, ça me référait à Carey Price à Montréal qui répond des
pense à la même affaire.
C'est pour ça que Carey faut qu'il change l'année prochaine. Puis je pense qu'il est capable de le faire. Parce que c'est pas normal qu'un joueur comme Carey Price, quand il parle aux journalistes, là, il parle au peuple, là. Il parle aux partisans d'équipe, là. C'est pour ça la grosse différence. Marc-André, lui, gars, il est à Vegas. Tout va bien. Il baigne dans l'huile. Parle aux journalistes. Tabarouette. Ça, c'est-tu rafraîchissant à voir, ça? J'ai adoré ça.
Et sais-tu quoi, Mario? Pour Marc-André Fleury, tu sais, veux pas, là, mets-toi à sa place. Tu sais, il a contribué à la conquête de la Coupe cette année l'an passé. Il avait été mis de côté l'année précédente parce que Murray avait pris toute la place l'an passé. Ouais. Il est redevenu utile en série. Puis ça devait faire un peu de peine de quitter Pittsburgh. Là, il était avec eux autres. Ça a été un choix de première ronde. Mais la manière que ça tourne à Vegas pour lui, je veux dire, les gars doivent le regarder puis se dire, maudit. Tu sais, écoute, c'est incroyable. Il est au centre, là. C'est la vedette de la place.
C'est sûr, effectivement. Puis moi, là, tu sais, il y a ce genre d'athlètes-là dont on est fier de voir qu'ils ont du succès, tu sais. Quand c'est des bonnes personnes comme Marc-André, là, tu sais, c'est un bon kid, puis il a toujours le sourire, puis regarde, avec l'élégance, puis la classe, là, quand Vegas sont tournés à Pittsburgh, comment est-ce qu'il a été fin, comment est-ce qu'il a été gentil. Dans la vie, là, ça se paye, ces choses-là, là. Tu sais, à un moment donné, le bon Dieu le redonne, si tu veux, la bonté
le karma,
de ces personnes-là.
Ouais,
ouais. Puis moi, le karma, exactement. Puis Marc-André, tellement content pour lui. Puis dans le fond, tantôt, je te parlais que c'était une source de motivation pour les joueurs. Ben, ça en est une grande aussi pour Marc-André, que les Pingouins n'ont pas protégé. Alors, regarde, lui, là, c'est un peu un petit clin d'œil qu'il fait aux Pingouins de Pittsburgh en même temps, puis aux partisans de Vegas aussi.
Je comprends donc. Mario, on s'arrête le temps d'une courte pause. Au retour, Kovalchuk nie avoir une entente avec les Rangers de New York. T'es le gars qui le connaît le mieux que je sache à Montréal. J'aimerais ça t'en parler un petit peu dans un petit moment. Viva Las Vegas! Viva!